Silcast présente la revue de presse, thème du jour, politique française, avec Alex et Marc. Bonne écoute.
On est le 27 juin, demain, 3 ans jour pour jour, après la mort de Nahel Merzouk. Et la Cour de cassation vient tout juste de rouvrir la voie à un procès pour meurtre. Du coup, l'actu française du jour est largement écrasée par ce double anniversaire et par la question policière. On va y revenir en détail. Et on enchaînera ensuite sur 2 affaires extrême droite qui tombent en parallèle, plus un papier du vent se lève sur le droit du travail si on a le temps.
Très bien, commençons par Nahel, parce que c'est l'angle politique le plus structurant. Politis publie 2 textes, un édito sur la chimère et une tribune des Red Jeunes. Et ce qui me frappe, c'est qu'on est dans un moment paradoxal. La justice bouge, lentement, mais elle bouge. Requalification en meurtre par la Cour de cassation, condamnation pour homicide volontaire dans l'affaire Olivio Gomes. Et en même temps, l'arsenal législatif, lui, continue d'aller dans le sens opposé.
Oui, et la tribune des Red Jeunes est très intéressante parce qu'elle prend à rebrousse-poil le réformisme habituel. Récépissé, police de proximité, ils disent « non, on n'en veut pas ». Pas parce que ça ne servirait à rien, mais parce que ça aménage la violence policière au lieu d'y mettre fin. C'est radical comme position.
C'est radical. Et je vais être honnête, c'est là que je décroche un peu. Le récépissé, c'est imparfait, oui. Mais c'est testé. Ça existe ailleurs, en Espagne notamment, et ça documente. Refuser l'outil au nom de la pureté de la revendication, c'est une logique que je comprends politiquement, mais qui, concrètement, laisse le statu quo gagner.
Sauf que leur argument, justement, c'est que le statu quo a déjà gagné. 22 morts depuis le début 2026. L'article L435-1 a multiplié par 5 les tirs mortels sur refus d'obtempérer depuis 2017. La circulaire Retailleau systématise les courses-poursuites. Tu leur proposes un récépissé pendant qu'on passe une présomption de légitime défense pour les flics.
L'argument est fort, je le concède. Et la séquence Retailleau, plus le retour annoncé de la présomption de légitime défense par projet de loi gouvernemental, ça dessine effectivement une trajectoire inquiétante. Mais ma question reste. Qu'est-ce qu'on vote mardi prochain à l'Assemblée? Parce que mettre fin au contrôle préventif, c'est un horizon, pas un amendement.
C'est aussi un amendement, en fait. Tu peux écrire dans la loi que les contrôles d'identité sans soupçon objectivable sont interdits. Ça s'écrit. La CEDH a condamné la France en juin 2025, le Conseil d'État en 2023, la Cour de cassation en 2016. À un moment, ce n'est plus une question technique, c'est une question de volonté politique.
D'accord sur la volonté politique. Et l'édito de Politis sur la chimère a raison de rappeler que ce n'est pas qu'une question policière. C'est l'imbrication, précarité, déserts médicaux, abandon scolaire, mépris social. Réduire ça à une réforme du contrôle d'identité, ce serait passer à côté.
On enchaîne sur l'extrême droite, parce qu'il y a 2 affaires qui se télescopent. Mediapart révèle que le think tank du groupe RN au Parlement européen, présidé par Bardella, a embauché Manuel Corchia, un néo-nazi suisse, fondateur d'Eisenjugend et de Junge Tat, condamné pour incitation à la haine. Et au même moment, le RN se fait écarter de la cérémonie d'entrée de Marc Bloch au Panthéon et réplique en accusant les communistes d'avoir livré Bloch à la Gestapo.
Sur le Panthéon, l'argumentation RN est grotesque. Francis André, ce gueule tordu qu'il cite, a quitté le PCF en 1936 pour suivre Doriot au PPF, est devenu garde du corps de Pétain, a combattu sur le front de l'Est contre les soviétiques. Le présenter comme un communiste qui aurait arrêté Bloch, c'est un mensonge factuel.
Et bon part à la bonne réplique. Barthélémy Dufraisse, Malaguti, tous PPF, tout devenu cadre du FN à sa fondation en 1972. La filiation, elle est là, documentée. Le RN ne peut pas la blanchir.
Sur le fond, oui. Mais je veux nuancer une chose. La stratégie de dédiabolisation par diabolisation de l'adversaire, ça marche dans une partie de l'opinion. Quand tu fais saisir l'ARCOM par Lavalette, tu n'essaies pas de convaincre les historiens. Tu sèmes le doute chez le téléspectateur de base. Et c'est efficace.
Sauf que l'affaire Mediapart tombe au même moment et rend la dédiabolisation beaucoup plus difficile. Tu ne peux pas pleurer ton exclusion du Panthéon en te présentant comme un parti républicain normal et en même temps faire bosser un mec qui crie « Sieg Heil » en visio à la fondation présidée par ton président de parti. Les 2 infos ensemble, c'est dévastateur.
Dévastateur médiatiquement quelques jours, oui. Politiquement, à 6 mois d'une présidentielle, je suis moins sûr. L'électorat RN a déjà absorbé bien pire. Et puis, il faut être lucide. Audouard et Androuet, qui géraient la fondation, vont dire qu'ils ne savaient pas, qu'ils ont sous-traité, et l'histoire passera.
Une recherche Google de 30 secondes suffisait à identifier Korshia. C'est ça que dit Mediapart. L'hypothèse du « on ne savait pas », elle ne tient pas.
Elle ne tient pas factuellement, on est d'accord. Politiquement, elle suffit à brouiller. Bon, un mot rapide sur Tegnérisse News, parce que ça s'inscrit dans le même écosystème.
6 mois avec sursis et 30 000 euros pour avoir balancé nom, prénom et ville d'exercice de 10 avocats d'assaut d'aide aux migrants dans un hors-série titré « Invasion migratoire, les coupables ». Le tribunal dit clairement que Tegnér ne pouvait ignorer le risque de violence. Et ces news en fait un martyr de la liberté de la presse.
Ce qui me gêne, au-delà de Tegnér lui-même, c'est la normalisation. Il prend la place de Morandini, condamné pour détournement de mineurs. La chaîne enchaîne les chroniqueurs au casier judiciaire actif et continue son business comme si de rien n'était. Là, c'est l'ARCOM qui devrait s'auto-saisir, et on attend.
On a encore 2 minutes, je veux qu'on touche un mot du papier, du vent se lève, sur le droit du travail. Ils repartent du dossier Molex en 2009, où le CE avait pu bloquer un plan de licenciement en refusant de rendre son avis, et ils montrent comment cette arme a été supprimée par la loi de sécurisation de l'emploi de 2013, sous Hollande. Donc bien avant Macron.
Et c'est important de le dire, parce que le récit « tout est de la faute de Macron » est commode, mais faux. La loi de 2013, c'est le PS au pouvoir. Le détricotage est bipartisan. Il commence avec la gauche de gouvernement qui a cru à la flexi-sécurité à la danoise sans jamais mettre en face la sécurité de l'équation.
C'est ça qui est rageant. On a importé la flexibilité, on a oublié la sécurité, et aujourd'hui le nombre de procédures au prud'homme s'effondre. Pas parce que les conflits du travail diminuent, mais parce que les salariés savent que ça ne sert plus à rien.
Et le paradoxe pointé par l'article est juste. L'épaisseur du code du travail, dont tout le monde se plaint, elle vient massivement des dérogations négociées branche par branche, accord d'entreprise par accord d'entreprise, au bénéfice des grands groupes qui ont les juristes pour les exploiter. Le PME, lui, se débrouille avec le socle.
Donc on a un code de plus en plus épais et des droits de moins en moins effectifs. Joli résultat.
Voilà pour aujourd'hui. Sur Nahel, on suivra évidemment la suite judiciaire dans les prochains mois et on aura sans doute l'occasion de revenir sur le projet de loi présomption de légitime défense quand il sera déposé.
Et sur les Sanchez-Canon, on parle vite. À demain.